l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est David Onona, franco-israélien, guide de voyage mémoriel, conférencier, directeur général du fonds de dotation Memories Foundation. Il est à Strasbourg pour animer les rencontres du FSJU dont il est partenaire. C'était ce mardi 10 janvier sur le thème « Les voyages mémoriels, pourquoi se rendre sur les sites ?» Une question à laquelle évidemment on va tenter de répondre dans cette interview. David Onona, bonjour.
Bonjour à vous, merci de me recevoir.
Ravi de vous recevoir, nous nous étions rencontrés, pour être tout à fait honnête, en avril dernier à Ramat Gan, lors du voyage de la délégation strasbourgeoise de la mairie de Strasbourg pour la célébration de ses 30 ans du jumelage de la ville de Ramat Gan avec Strasbourg. Vous étiez guide à ce moment-là sur ce voyage-là.
C'est vrai, à l'initiative de Laurent Grindevol, donc une délégation assez incroyable. Et dans le monde dans lequel on vit, toute personne, toute délégation qui fait des ponts entre Israël et la France, c'est quelque chose d'un fort enjeu. Israël est assez isolé dans le monde, avec une image difficile parfois. Et c'est vrai que ce voyage a permis de mettre en relation des hommes et des femmes de bonne volonté et de se rencontrer sur le terrain, parce que la vérité, elle est toujours quand on se rend compte des choses in situ. Et c'est vrai que ça a été des moments forts, aussi bien autour de l'environnement, et puis je me souviens qu'on était ensemble également à Yad Vashem, puisque j'ai eu le plaisir de vous guider au mémorial de la déportation et de la bravoure, puisqu'on célèbre aussi la résistance juive dans la Shoah, les Justes de France également, les Justes du monde qui ont sauvé des Juifs, et on a effectivement partagé des moments très forts. Je crois que pour Ramat Gan, pour Israël, le lien avec l'Alsace-Lorraine, Strasbourg, est fondamental. On a aussi beaucoup en Israël de communautés, de gens d'origine d'ici, qui sont attentifs à ce lien particulier.
Alors, la ville de Strasbourg, il y a pu y avoir des relations compliquées, enfin tout du moins médiatisées comme telles, voilà, entre la communauté juive et la ville de Strasbourg sur certains points précis. Ça, c'est quelque chose où vous êtes briefé avant de recevoir un groupe sur des choses à mettre en avant pour recréer du lien également. Ça peut être important. Alors, vous me disiez juste avant cette interview, vous n'êtes pas du tout politisé, et ça, on l'entend, vous êtes plutôt un homme engagé dans l'humain et dans la transmission de cette mémoire, mais là, dans ce cas particulier, vous aviez, vous, ce brief d'avant-voyage.
Bien évidemment, il y a des sensibilités politiques, elles font partie du contexte, et dans la cité, il est normal qu'il y ait des débats et des alternances politiques. Et pour autant, il y a un fond commun de valeurs humaines. Et moi, je suis effectivement un homme qui est sur l'humain, sur la rencontre. Sans préjugés, on essaie de laisser de côté l'histoire de chacun, ses préjugés, son engagement, et de trouver des points de concordance. Et je vais juste donner une anecdote, on était ensemble à l'hôpital à Dassa, à Jérusalem, et on a rencontré un service de polytraumatisés, un service d'urgence attentat, et ce service était dirigé, vous vous en souvenez, par oui. Un arabe israélien, musulman, dont la première adjointe était une femme perruquée, juive orthodoxe, une deuxième adjointe était une jeune femme avec un foulard, et il travaillait également avec des juifs non religieux, et quelque part en Israël, on peut voir un certain miracle, des gens qui sont chacun dans une bulle, dans un engagement de vie, dans une foi différente, et se retrouver sur, par exemple, le fait de sauver une vie humaine, quelle que soit la vie humaine. Et je me souviens, j'avais été surpris de questions d'élus qui demandaient, mais quand un terroriste arrive, qui a été blessé, est-ce qu'il est soigné? Et la réponse a été, il est soigné comme une victime d'attentat, parce que quand on passe la porte des urgences, on est un être humain en difficulté, en urgence absolue vitale, et on se doit de traiter toutes ces personnes humaines comme des êtres humains. Et tous les services, juifs, arabes, musulmans, israéliens, chrétiens, sont au service de la vie. Et je pense qu'on peut bâtir, quand on revient aux fondamentaux, on peut bâtir, se rencontrer, se parler, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on peut être d'accord sur l'essentiel. Et c'est une autre façon peut-être de faire de la politique, mais de la faire avec un autre angle. Dans mes engagements à Strasbourg, puisque je viens régulièrement ici, dans des partenariats avec le FSJU, soutenu par Noé, soutenu par le niveau national, et surtout le délégué régional Laurent Gradvol et Richard Aboeuf, qui fait un travail à l'ORT extraordinaire. Je vous donne un autre exemple. Je crée des ponts toujours, et il y a 2-3 jours, Richard Aboeuf, directeur des projets culturels à l'ORT, une figure mythique de la communauté, a guidé les enfants de Sainte-Clotilde, une institution donc catholique, sur un parcours qu'il avait préparé de 3 stations sur les Stolperstein. Et on a emmené des enfants pour qui la Shoah Le mot et le terme n'est même pas connu à la base, et on a vécu trois moments d'émotion très forts, et avec toujours ce pont entre cette Shoah, ces Juifs qui ont été le système nazi tellement destructeur, et des enfants qui sont à l'adolescence, qui se cherchent, qui ont besoin aussi de sens, et qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on les aime, qu'on donne du contenu, qu'on partage, qu'on les inscrive dans la mémoire, parce que c'est aussi une des raisons d'aller en Pologne. Quand on sait qui l'on est, quand on comprend mieux ses racines, quand on comprend mieux où est l'essentiel chez l'autre, eh bien, on progresse dans la vie et on avance. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à Ramat Gan, c'est-à-dire de tirer le système vers le haut, se parler, se rencontrer. En Israël, il y a de très belles choses, et je vais vous faire plaisir aussi. Et c'est une vérité, il y a aussi beaucoup à apprendre de la France, beaucoup à apprendre, à mon sens, de Strasbourg. C'est une ville qui a une histoire riche, très très riche, parfois dramatique, mais aussi avec beaucoup de tolérance et beaucoup de choses merveilleuses. Et on apprend dans la rencontre.
Alors, David Odona, vous n'êtes pas strasbourgeois, vous êtes lyonnais, vous êtes né à Lyon, vous vivez aujourd'hui en Israël. Vous avez un parcours très particulier. Comment est-ce que vous avez été jusqu'à être aujourd'hui israélien, installé, donc francophone évidemment, installé en Israël, à défendre les valeurs d'Israël, très, très engagé au niveau sécuritaire, au niveau des infrastructures d'Israël. Enfin, on sent que c'est votre ADN, hein, Israël, aujourd'hui.
C'est mon énergie vitale, oui.
Oui, c'est ça. Donc, vous êtes parti de Lyon, vous avez fait vos études universitaires à Lyon, en sociologie, en psychologie.
Aussi, parce que j'ai fait un doctorat à l'ENSAM.
Docteur David Onona, j'aurais dû commencer par ça.
Je sais
que vous n'êtes
pas
comme ça.
Juste pour dire que j'ai aussi étudié à Paris.
Alors, quel est votre parcours et qu'est-ce qui aujourd'hui, alors ça sera dans un deuxième temps, vous anime sur la transmission de ces valeurs, de la Shoah et cette lutte.
Je vais essayer de donner du sens un petit peu, mais je crois que quand on est un homme de 56 ans, ce qui est mon cas, on regarde sa vie déjà un petit peu, ce qu'on a fait, son parcours. Et je suis aussi le produit de mon histoire familiale et de ce que mes parents m'ont donné et soutenu et impulsé. Et chez moi, à Lyon, on avait trois champs importants dans la vie. Le premier champ, c'était l'ouverture à l'autre et les valeurs humaines. Mon père a été sauvé, il est enfant caché, il est toujours vivant jusqu'à 120 ans. Ma mère aussi est survivante de la Shoah. Et il a été sauvé par des non-juifs qui l'ont caché dans une cave à côté de Lyon. Il a donc survécu, fondé une famille et poursuivi dans la vie. Et donc, cette ouverture aux autres était doublée d'un message autour de l'amour de la vie. Un papillon sur une fleur, le soleil qui se lève. Et il y a toujours eu chez moi cette ouverture à l'autre, à l'humain, et cette ouverture à la nature qui me touche aussi. Et mon père m'a appris à regarder, à m'arrêter. Moi, j'étais un enfant turbulent, à 200 à l'heure. Et donc, il m'a appris à me poser, à écouter le chant des oiseaux, à prendre un moment. Et toute chose qu'il a toujours reliée à son expérience d'enfant caché, à ses espoirs, à ses rêves. Il y avait une deuxième chose qui était très forte chez nous, c'est l'identité juive. C'est-à-dire que ce message qu'il a eu de son père, de jamais oublier d'être juif, de savoir qui il était alors qu'il avait 7, 8, 9, 10 ans, dans une période trouble, difficile pour les enfants, difficile pour tous les enfants dans la guerre, mais difficile particulièrement pour les juifs qui étaient poursuivis, raflés, assassinés. Et cette identité juive, elle a été fondatrice chez nous. Et ça a aussi été un cheminement spirituel, avec une question, où était Dieu dans la Shoah? Comment peut-on pratiquer le judaïsme? Et avec quel type de dialogue avec le Créateur? Mon père est beaucoup en colère, un peu à l'image d'Elie Wiesel, à l'égard de Dieu. Mais en même temps, on a eu une éducation juive, et mon père est dans la question, dans la recherche, dans l'étude, dans le texte. Et donc, j'ai eu cette chance extraordinaire d'étudier avec lui et de poursuivre mon étude juive et mon cheminement spirituel en essayant d'être en paix avec cette question qui est une question difficile. Et le troisième sujet qui a animé mon enfance, il m'a inscrit au Bnei Akiva, que connaissent bien les Strasbourgeois. Beaucoup de leaders communautaires et de leaders israéliens, d'ailleurs, de la communauté sont passés par le Bnei Akiva, dont l'emblème est la Torah d'un côté, la Avoda et le sionisme. Pas le sionisme politique, mais oui, le sionisme, l'amour de Sion, l'amour de la terre d'Israël. Et donc, logiquement, j'ai suivi ce cheminement. Après les études, moi, je suis quelqu'un de... Je ne sais pas si c'est très important, mais je lis énormément, je cherche énormément, j'ai besoin de comprendre. Et donc, j'ai fait... de la psychologie, ce n'est pas un hasard, au sens où je voulais comprendre ce qui se joue chez l'homme. Et... Notamment, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Milgram sur la résistance à l'autorité, sur la soumission, avec une question clé qui, là aussi, liée à la Shoah, la perversité du mal, la perversité des nazis, les victimes, tout ça, ça m'a habité à l'adolescence, ça m'a habité à l'âge adulte, la résilience, tous ces sujets très forts. Et donc, ça a été pour moi une formation vitale. Et en parallèle, j'avais fait un deal avec mon père, parce qu'un psychologue, c'est comme rabbin, c'était pas un métier pour un juif, me disait-il, me dit-il toujours. Et j'ai étudié aussi du droit de la gestion, et pour être avocat, pensait-il, ou expert comptable, qui lui paraissait un métier plus établi, plus rassurant que psychologue. Et puis finalement, j'ai continué en m'interrogeant sur les grandes choses, à savoir la sociologie, c'est-à-dire les groupes, parce que dans la Shoah, il y a aussi une dimension de groupe, de soumission d'une population, des enjeux de résistance, de petits groupes, de grands groupes, de leadership. Et donc, j'ai étudié la sociologie pour comprendre ça, comprendre mieux ce qu'est un leader, comprendre mieux ce qu'est un petit groupe. J'en ai profité pour travailler, bien évidemment, dans le domaine professionnel. J'ai créé une société, je l'ai développée, beaucoup sur la performance humaine et dans le domaine nucléaire. Je me suis intéressé à l'homme, là aussi, aux leaders, aux équipes qui conduisent les centrales nucléaires. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai recruté des jeunes gens fantastiques qui ont fait de la recherche. En parallèle, j'ai commencé à m'intéresser au guidage, à la Shoah, à lire, à me dire qu'un jour, peut-être pour porter plus facilement ce fardeau, eh bien, j'irai vers le guidage. J'ai fini avec un doctorat à l'ENSAM, à Paris, aux arts et métiers, avec l'école polytechnique et l'école centrale, à Paris Tech. Et ça m'a fait... J'aime beaucoup être devant une feuille blanche, écrire, poser les choses. Et puis, quand j'ai vendu ma société dans les années 2000, j'ai décidé de changer de vie. Et de faire deux choses finalement qui avaient du sens pour moi. La première, c'est, bien évidemment, vous l'avez compris, voter avec mes pieds, entre guillemets, et aller vivre ce rêve sioniste avec ma famille. Et on est parti avec trois enfants, on a une fille qui est née ensuite en Israël, et c'est un choix dont on est heureux tous les jours. On a aujourd'hui deux petits-enfants, trois enfants mariés, une quatrième qui va bientôt rentrer à l'armée. Et en Israël, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Recommencer du conseil, du business, de la recherche. J'avais plus envie de ça. J'ai eu des propositions. J'étais professeur associé dans un laboratoire à Paris de recherche. Et j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai fait, c'est assez particulier, j'ai été dans le domaine de la sécurité, division stratégique de Tsahal, comme officier. En parallèle, je suis rentré dans une unité de Magav. Donc, Magav, ce sont les gardes frontières, pour faire de l'antiterrorisme, donc de terrain. Parce que je suis un homme qui a besoin à la fois du terrain, à la fois de réfléchir et de la stratégie. Et en parallèle, j'ai fait un cours de guide. Je me suis formé donc au guidage en Israël et au guidage de la Shoah. Et puis, j'ai poursuivi comme ça pendant ces 15 dernières années, 20 dernières années. Si on fait sobrement, j'ai ensuite formé effectivement les guides de la Marche des Vivants. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Laurent Gradvold. On a guidé plusieurs délégations, des VIP, mais aussi des enfants. J'ai guidé 5 ou 6 voyages de l'Ort, je crois, en tout, de Strasbourg. On repart cette année, d'ailleurs, dans quelques mois.
Pour Auschwitz.
Voilà, je guide Sainte-Clotilde sur un parcours mémorial en France, donc au Veldiv à Paris, au gymnase Japy, au CHRD à Lyon, à les maisons d'Izieux. Donc, on a un magnifique programme. Et donc, j'ai formé les guides. J'ai commencé à me dire qu'il fallait travailler sur le terrain. On a créé une fondation qui s'appelle Memories Foundation. On a hébergé 3 activités qui sont mes 3 passions. La Shoah, vous l'avez bien compris, est dans un message positif, c'est-à-dire à la fois regarder l'horreur absolue, essayer d'appréhender ce sujet où les mots sont difficiles, le faire dans une perspective éducative. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas seulement de choquer les jeunes, mais c'est de les faire réfléchir à ce qu'ils sont, à ce qui les anime, à la beauté de la vie, à leur devoir de résistance, éveiller un petit peu leur côté critique, et puis bien évidemment lutter contre des choses horribles comme le racisme, la haine de l'autre, le jugement, a priori, avoir cette intelligence du cœur, être capable de cela, et puis de résister aussi, des résistances. Et donc ça, c'est un message très fort qu'on a dans la Fondation. On a une activité océan dont on reparlera peut-être un jour. On travaille aussi avec Sainte-Clotilde ici sur l'environnement, la préservation des océans, les coraux, et on fait des choses incroyables. Je serai de retour dans 15 jours avec eux sur un atelier mosaïque, donc art et océan, où des jeunes de 16-17 ans vont faire une magnifique mosaïque dans le 2 mètres de long, 1,20 m de large, un Nemo, tout ça pour les petits-enfants de l'école primaire et pour que tout le monde en profite. Et puis la troisième activité, c'est l'archéologie. C'est finalement mon dernier engagement non bénévole, on va dire, puisque j'étais fonctionnaire d'État en Israël, qu'on m'a appelé, qu'on m'a recruté pour entrer dans une unité de lutte contre le trafic d'antiquités. À l'époque où l'État islamique se finançait en pillant les musées et en pillant les sites en Irak, en Syrie et partout. Israël était, pour des raisons géographiques, puisque c'est une terre de passage au cœur de ce trafic, puisque, et donc j'ai eu l'occasion pendant 3 ans d'être inspecteur général aux antiquités israéliennes, donc un job entre la police scientifique, la police des antiquités et l'archéologie. J'ai eu une chance extraordinaire, j'ai rencontré 400 archéologues fantastiques, d'abord pour me former, et ensuite pour faire ce travail qui a été très fort. Comme l'éducation est au cœur de ma vie, très vite, en parallèle dans le Rashout, j'ai pris en charge ce qu'on appelle l'éducation, la Hanchala, et on a fait venir 5000 jeunes la première année sur des fouilles archéologiques israéliens, pour faire le travail d'archéologie de terrain pendant 5 jours, se lever le matin très tôt, travailler ensemble, communiquer, avoir la patience, et puis l'émotion de trouver une pièce d'or, un bijou, une verrerie, mais aussi une pierre, un temple, et réfléchir sur les 3 religions, puisque quand on épluche Israël, oui, on a l'islam, on a ensuite, bien sûr, les croisés, les arabes, à nouveau les byzantins, les chrétiens, et puis les juifs. Et donc ça donne le tournis, mais en même temps, ça éduque. Et 5000 jeunes la première année, 15 000 la deuxième année, 30 000 la troisième année. Le Covid est venu là-dessus, on a créé la fondation, j'ai quitté le Rechout à Atikot, et aujourd'hui je suis très heureux de développer cette fondation entre la France et Israël, avec des projets magnifiques.
Alors, dans ça, on a le tourné, tant vous avez d'activités que vous mettez en place, des ponts entre la France, Israël, des voyages mémoriels en Lituanie, en Pologne, en France, on le disait, en Autriche et d'autres encore. Vous étiez à Strasbourg, là, on va revenir sur des choses très concrètes. On aura l'occasion, hein, je le dis pour nos auditeurs, de se voir à d'autres, pour d'autres émissions, parce que évidemment, on pense que les 20 minutes qui nous sont imparties, là, ne vont jamais suffire. À parler de toutes ces choses passionnantes. Là, vous parlez d'archéologie, ça ferait évidemment toute une série d'émissions et ça paraît évident de parler de tous ces trésors d'Israël et que vous défendez tellement bien et dont vous connaissez l'essence même de toutes ces fouilles. Et évidemment, on va vous réinviter pour ça.
Ce sera avec plaisir.
On va juste revenir sur la conférence que vous avez animée au FSJU, c'était ce mardi soir, sur la thématique les voyages mémoriels. Alors pourquoi se rendre sur les sites? Est-ce que vous pouvez, alors il nous reste très peu de temps, en quelques minutes encore, nous dire pourquoi, quelle est l'importance de ces voyages pour les scolaires, mais pour le grand public également?
Alors juste, oui, bien sûr, en quelques minutes. D'abord, je n'ai pas de position dogmatique, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aller sur les sites mémoriels en France et on peut ne pas y aller en Pologne. Mais on peut aussi y aller et avec le temps, pendant des années, je n'y ai pas été. Mon père ne veut pas y aller, parce qu'il parle souvent d'Auschwitz avec cette expression terrible qui dit l'endroit où j'étais destiné à aller comme enfant juif. C'est là que j'aurais dû terminer sur la rampe, sur cette marche de la mort de 400 mètres et puis ensuite, bien sûr, la chambre de déshabillage, le gazage et le crématoire. J'ai mis des années à ne pas y aller, et puis un jour j'ai décidé d'y aller, et puis un jour j'ai décidé d'apprendre, et puis un jour j'ai décidé de guider, et puis de former des guides. Écoutez, là, je vais me baser sur ce que me disent les enfants. La première chose, c'est l'immensité, par exemple, du camp d'Auschwitz-Birkenau. Si on n'y est pas, et en Israël, par exemple, à Nergalim, j'ai travaillé sur un Tlat Mebad, des lunettes en 3 dimensions, et on visite le site presque comme si on y était. Mm-hmm. Sauf qu'on n'a pas ce que me disent les enfants. L'immensité du camp. Le côté... cette immensité, ce silence, ce qu'ils ressentent. Pour ça, il n'y a que sur place qu'on se rencontre. Rentrer dans une chambre à gaz, on rentre à Majdanek dans une chambre à gaz. On voit les traces des ongles sur les murs, on voit le zyklon B vert sur... On y rentre, et comme je dis aux enfants, on en sort aussi. On en sort, nous. Ceux qui sont rentrés ne sont jamais sortis. Mais c'est une expérience particulière. On y rentre aussi à Auschwitz 1, puisqu'on peut aussi rentrer dans une chambre à gaz à Auschwitz 1, et on voit aussi des crématoires. Et donc sur place, en étant sur le site, on se rend compte aussi de la beauté du judaïsme d'avant. Quand on est à Cracovie et qu'on visite dans le petit quartier comme à Strasbourg, du parc des Comtades et de la synagogue, on visite 7 synagogues magnifiques en une demi-journée qui montrent la diversité du judaïsme. Les chassidim, les lituaniens, les libéraux, les progressistes, les sionistes. Et on s'aperçoit que cette communauté était plurielle. Et on prend conscience de ce qui a été détruit et de ce qu'il faut préserver. Dans les autres raisons, ce qui émeut les gens, même des gens qui ne voulaient pas venir et qui ont mis du temps à venir, j'ai en tête 2 frères très émouvants, je ne vais pas citer leurs noms pour ne pas les mettre mal à l'aise, mais 50 ans de souffrance avec la Shoah, d'héritage très dur. Et puis ils viennent à un voyage mémoriel de la Fondation. Et ils sont devant le lac des cendres, Ils n'ont plus mis de kippa, ils ne font pas kippour. Ils ont complètement quitté la communauté épousée des non-juifs. Mais ils sont venus, deux frères, ensemble, au dernier moment dans ce voyage. Et là, je me tourne vers eux et je leur propose de lire le Kaddish. Et je leur dis, il y a deux textes. Il y a le Kaddish civil que lisent les Israéliens non-religieux, qui est une sorte de poème. Puis il y a le Kaddish religieux, en phonétique. Et je leur dis, peut-être voulez-vous célébrer ce Kaddish ? Et ils me demandent une kippa. Et ils lisent le Kaddish traditionnel en phonétique. C'est un moment qui m'a marqué à vie, j'en ai des frissons.
Mais je vois que vous êtes
très ému. Parce que, quelque part, je leur ai permis de dépasser ça, hein, de venir s'incliner devant cet endroit où repose leur histoire, leurs racines. Et quand ils sont rentrés à Paris, ils m'ont écrit une lettre très forte, tous les deux, ces deux frères, en me disant que je leur avais fait du bien. Ça leur avait fait du bien, ce voyage. Ça avait permis de mettre du baume sur une souffrance. Et ce Kaddish leur a fait beaucoup de bien pour eux et pour leurs femmes, leurs épouses, leurs enfants. Ça les a réconciliés avec une histoire. Et je crois que ce qui anime Laurent Gradvold, parce qu'on a un projet de voyage adulte, on a un projet, il soutient tous les projets, le FJU est vraiment un partenaire clé avec Noé pour la jeunesse. Il y a cet enjeu humain quelque part. Après, il y a des raisons d'y aller, il faut marquer une présence juive sur ces sites. Je pense au camp de Plachov. Je ne sais pas si vous y êtes allé il y a 10 ans, 15 ans. J'ai vu l'été des gens en maillot de bain, en bikini, sur des fosses où il y avait 10 000 corps de juifs, dans un parc qui n'était pas signalé, où l'herbe avait poussé, magnifique. Et quand on est juif et qu'on vient à Plachov, le camp qu'on voit dans la liste Schindler, et que l'hiver on voit des enfants faire de la luge dessus, on se dit « c'est pas possible ». On a un cri d'injustice. Et en même temps, ces gens ne savent pas ce qu'il y a ici. Je ne considère pas, moi, que les humains viennent se mettre en maillot de bain sur le parc à l'époque de Plachov pour embêter les Juifs. C'est un travail auprès de la mairie que les guides d'Israël et les guides français ont fait. Et aujourd'hui, le site est balisé. Il y a des panneaux. La mairie de Cracovie a investi. Le lieu est un lieu de mémoire respecté. Et ça, c'est parce que les Juifs sont présents, parce qu'on a dit non. Et la Pologne est pleine de cimetières juifs, de communautés. Comme ici en Alsace, il y avait beaucoup de communautés rurales. Et il faut protéger ces cimetières. Parfois, je suis avec des jeunes et on nettoie les tombes. Et donc, c'est une autre raison d'y aller. Et de garder un œil vigilant sur ces lieux de mémoire. Parce que c'est, comme le disait Simone Veil, c'est là où les choses se jouent, là-bas. Et c'est fondamental. Et le dernier point, peut-être, parce que je ne peux pas tout dire, effectivement, sinon il faut venir à la conférence, elle sera, je la refais, je crois, le 31 janvier, à Strasbourg, une deuxième fois. Et les enfants qui viennent là-bas grandissent, les adultes aussi, mais parlons des jeunes qui moi, me séduisent tellement. C'est dur d'être adolescent aujourd'hui dans ce pays, c'est compliqué, la crise, l'Ukraine, c'est très angoissant, les familles, le rythme de vie. Partir en Pologne, c'est s'arrêter, être dans une bulle avec ses camarades, c'est se regarder autrement. Le fait qu'on soit sur des lieux de mémoire où je les fais réfléchir, sur qui ils sont, leur rapport aux autres. J'ai vu des choses incroyables, comme un enfant qui était stigmatisé dans une classe, qu'il était fort, gros, et le souffre-douleur de la classe. Et quand j'ai parlé de la barbarie nazie, quand j'ai expliqué ce que faisaient les nazis aux autres, simplement parce qu'ils étaient juifs, tziganes, communistes, opposants, ils réfléchissent. Ils s'interrogent sur eux. Et un soir, je n'oublierai jamais ça, à Varsovie, cet enfant qui mangeait seul, et j'étais m'asseoir à côté de lui plusieurs soirs, seul, avec lui, quand tous les autres étaient ensemble, à rire, à décompresser. Et à un moment, à Varsovie, il y a eu un déclic. Et il y a son pire ennemi, qui était son tortionnaire, quelque part dans la classe, qui est venu le voir, qui l'a pris par la main et qui l'a assis à côté de lui. Et il y a eu un moment de silence dans ces 50 jeunes. Il a réparé quelque chose. Et ça, ça n'a pas de prix. Comme un enfant de Sainte-Clotilde qui a écrit à son père en rentrant une lettre qu'il m'a envoyée. Il voulait absolument que j'aie cette lettre. Et il a écrit à son père, tu sais, ces deux dernières années, je suis adolescent, j'ai fait plein de bêtises, j'ai honte. Et papa, je t'aime. Et ça, pour moi, c'est des grandes victoires aussi. En lien avec la Shoah, en lien avec l'humain, qui nous font réfléchir, qui nous font grandir. Et pour ces jeunes, financer ces voyages, aider le FJU à nous soutenir. On a besoin de dons, ça coûte cher ces voyages, y compris le voyage mémoriel en France. c'est les faire grandir autrement. C'est l'éducation informelle. Et c'est le sens de ma vie, sûrement.
David Odonna, merci infiniment déjà pour l'énergie que vous mettez, pour votre mission et pour votre belle humanité. Merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.